I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est David Goffin et bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, c'était à Bercy en 2014. Il m'a fait penser à mon frère, un gabarit frêle qui doit tout utiliser s'il veut rivaliser. La puissance de son adversaire, une vitesse de jambe hors norme, la géométrie du court. Bien sûr, je lui ai demandé comment il vivait son confinement. Et puis après, j'ai eu envie qu'on parle de tennis. Parce que ça lui manque, parce que ça nous manque. L'enregistrement a eu lieu par Skype, donc le son est moins bon que d'habitude. Je vous demande pardon, je suis sûr que vous comprendrez. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Bonjour David Goffin, est-ce qu'on se voit ou on se tutoie ?
On peut se tutoyer.
La première question que j'ai envie de te poser dans cet environnement un peu spécial, c'est comment se passe ton confinement ?
C'est un peu difficile, évidemment, pour tous les sportifs. Déjà, on a beaucoup de tournois et longs annulés au cours de la saison. Donc, c'était de très beaux tournois. Après, avec Indian Wells, Miami, et puis les tournois qui devaient arriver. On reste chez nous, on essaye de faire un peu d'activité comme on peut.
Comment tu fais pour t'entraîner ?
Je fais une petite sortie par jour. J'essaye d'aller tout près de chez moi, comme on a le droit de faire un peu d'activité physique. Je fais un petit footing par jour. Et puis après, on fait comme on peut pour essayer de se dépenser un peu physiquement.
C'est quoi les conditions en Belgique pour vous ? Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous dit l'État, tout ça ?
C'est pareil, hein, c'est pareil partout. On est en plein confinement, donc on a le droit un petit peu de sortir, aller faire ses courses, et sinon rester le maximum chez soi, donc il n'y a que ça à faire pour le moment.
Comment tu t'organises avec ton staff ?
Pour le moment, on est tous pareil, tous chez soi. On attend de reprendre du boulot, en espérant que ce soit le plus vite possible, mais on est tous un peu au chômage technique.
Est-ce que justement, vous les joueurs, vous êtes en contact avec l'ATP ?
On reçoit, on a des news de temps en temps, on est tous par mail. On a tous des mails d'information qui nous disent un peu comment ça avance, comment ça se passe, mais pas plus que ça pour le moment.
Tu étais à l'Indian Wells quand tu l'as appris ?
Oui, on était tous là-bas avec mon staff. On s'attendait peut-être à ce qu'il y ait quelques annulations par la suite, mais pas aussitôt à Indian Wells. On était un peu dans l'attente là-bas à Indian Wells de savoir ce qu'on allait faire, si on rentrait. Puis finalement, tout était annulé, il fallait rentrer assez vite pour ne pas être bloqué aux États-Unis.
Est-ce que vous avez des informations sur la suite de la saison ?
Non, c'est étape par étape. Pour le moment, ça a été prolongé jusqu'au 8 mai. Donc là, il n'y aura pas de tournoi jusque-là et on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, comment ça évolue. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente de nouvelles.
Est-ce que tu as vu je pense que tu as vu la décision de Roland Garros donc de reporter le tournoi au 20 septembre. Qu'est-ce que tu penses de cette décision ?
C'est venu un peu comme une bombe. Personne ne s'attendait un peu à ça. Il n'y avait aucune rumeur, je vais dire, qui annonçait ça. Donc, ça a été vraiment très, très vite. Je pense que Roland Garros essaye juste de sauver un petit peu sa peau parce que là, comme c'est annulé, ils essayent vraiment de trouver une nouvelle date pour vraiment sauver le tournoi. Donc, quelque part, je les comprends un petit peu, mais à côté de ça, nous, on n'a eu aucun des joueurs. On était tous un peu choqués de la nouvelle, que ça s'est fait aussi vite sans même avoir tenu au courant l'ATP, ni même les joueurs. Donc ça, c'était un peu choquant.
Tu comprends quand même la décision ?
Je comprends le fond, mais je ne comprends pas la manière.
Est-ce que tu crois que ça peut encore changer ?
Oui, je pense que... Là, il y en a beaucoup qui vont réagir à ça. Il y en a beaucoup qui sont surpris. Il y a l'ATP aussi qui doit revoir un petit peu son calendrier. Il y a les grands chelems, Wimbledon aussi qui est très proche peut-être d'une annulation aussi. Donc eux aussi, ils vont essayer de sauver leur tournoi. Mais Les grands chelems et l'ATP, c'est deux associations différentes. Donc, voilà, le mieux, c'est de se mettre d'accord ensemble pour essayer de trouver un nouveau calendrier, mais c'est pas simple.
Donc, tu es en train de nous dire que Wimbledon est menacé. C'est ce qui se dit entre vous.
Non, pas du tout. C'est juste que là, petit à petit, on augmente à chaque fois la période de confinement. Et là, on en est à Roland-Garros. Et puis, Wimbledon, normalement, dans la saison, arrive très vite après Roland-Garros. Donc, on ne sait pas non plus si on va jouer Wimbledon. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles encore à ce niveau-là. Mais c'est sûr que pour eux, pour les fédérations, si le tournoi n'a pas lieu, c'est un sacré manque à gagner pour eux.
Si tu te projettes et que tu te dis que Roland-Garros a bien lieu le 20 septembre, comment tu verrais cet enchaînement après une tournée d'été américaine, l'US Open et Roland-Garros une semaine plus tard?
Ah, ça va être dur, là. Il va falloir, il faut déjà se préparer physiquement maintenant, là. Maintenant qu'on a le temps. Parce que quatre semaines de, enfin, deux fois deux semaines de grand chelem. En 3-7 gagnant, en changeant de surface entre les deux, ça va être costaud là.
Et l'ATP, en plus d'avoir annoncé, communiqué sur le reste des tournois, a annoncé qu'ils allaient geler le classement ATP jusqu'à la reprise de la compétition. Tu trouves ça juste?
Il n'y a pas vraiment de bonne solution, je pense, avec le classement. On est tous dans des cas différents, il y en a qui défendaient des points, il y en a qui pouvaient en prendre. C'est un peu compliqué au niveau de ce classement-là, c'est sûr que c'est injuste pour ceux qui devaient défendre des points qui ne peuvent pas défendre leur tournoi. Mais en même temps, ils peuvent pas non plus redescendre jusqu'à la 100e place mondiale parce qu'ils ne jouent pas. Donc c'est un peu compliqué, je pense que le plus... raisonnable, c'est le classement comme il est là pour le moment. Et on verra bien, il y aura certainement des adaptations lorsque le circuit reprendra.
Tu as eu le sentiment d'autres joueurs, est-ce que vous communiquez entre vous?
On se demande un petit peu ce qu'on fait tous, comment on fait pour s'occuper, ce qui va se passer, on se pose des questions, s'il y en a qui ont des news, d'autres qui en ont moins, il y a des joueurs qui nous représentent évidemment à l'ATP. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle, un petit peu comme Roland Garros hier, ben, on s'écrit un petit peu, voir un peu ce que les autres en pensent. Et ça part un peu dans tous les sens, vu qu'on est pas mal de joueurs à être en contact.
Votre représentant, vos représentants, ce sont Novak Djokovic en tant que président. Est-ce qu'il y a une scission entre les meilleurs et, allez, quand je dis les meilleurs, hein, c'est les trois plus forts et puis le reste du circuit?
Non, je pense qu'on est tous unis, on veut tous le bien du circuit et des joueurs. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus discrets que d'autres, mais voilà, Novak nous représente bien, Vacek Pospisil nous représente bien aussi. Et c'est eux qui sont pour le moment au front avec l'ATP pour essayer de nous représenter. Que ici, comme j'ai dit avec l'annonce de Roland Garros hier, les joueurs n'étaient pas du tout au courant, l'ATP non plus, donc là, il y aura une réaction aussi. Et c'est eux, évidemment, qui sont en premier pour nous défendre.
Et juste une dernière question, après on va parler de tennis. Est-ce que tu comprends que la Lever Cup maintienne ses dates en plein milieu de Roland-Garros? Est-ce que c'est un jeu de pouvoir?
Ben là, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui jouent sur deux chaises, clairement. Roger Federer, qui lui, ben, on sait que c'est un peu... son tournoi, la Lever Cup, son événement, et ça va tomber en plein pendant Roland Garros. Donc lui, par exemple, devra faire un choix. Nadal a eu l'habitude de le faire aussi, je crois deux fois sur trois ou trois fois sur quatre. Donc là, pour l'instant, si Roland Garros est maintenu et la Lever Cup aussi à cette date-là, bah, voilà, ça va être compliqué de trouver c'était deux fois six joueurs, je crois 12 joueurs pour la Lever Cup, normalement, qui sont dans le top 10.
Bon, maintenant, je le disais, on va parler tennis parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que le tennis te manque?
Bah oui, là, ça fait à peine quelques jours. Et là, déjà, on a déjà envie de taper la balle. Il fait beau en plus, donc oui, ça me manque.
Tu es où là? Tu es chez toi? Tu habites où?
Là, je suis à Monaco. J'habite à Monaco depuis 4 ans et demi, donc il fait beau.
Moi, j'ai envie de revenir un peu à ta formation. Comment David Goffin a commencé le tennis?
J'ai commencé le tennis à Liège, c'est ma ville natale en Belgique, où j'ai commencé le tennis à 5 ans. J'avais essayé d'autres sports, j'avais essayé le handball, j'avais essayé le foot. On m'a dit peut-être parce que c'était un sport plus individuel, j'étais plus concentré sur ce que je devais faire. Je pouvais voilà, en vouloir qu'à moi-même et j'ai tout de suite adoré ça. Tout de suite adoré et puis j'ai laissé tomber les autres sports, j'ai fait que du tennis et puis petit à petit j'ai suivi le chemin classique de la Fédération belge.
Est-ce qu'il y a eu une certaine éducation des parents qui a poussé dans ce sens-là aussi ou pas?
Ouais, mon père était toujours prof de tennis et mon frère qui est 2 ans plus âgé, lui aussi a commencé le tennis en même temps et puis il était toujours dans les catégories de jeunes plus fort que moi, donc quelque part il me tirait un peu vers le haut.
Donc ton frère était plus fort que toi dans les catégories de jeunes?
Bien sûr, juste, il avait ouais, 2 ans et demi plus vieux que moi, donc il était plus costaud, plus fort, donc chaque fois c'était un petit peu le duel entre nous.
Et aujourd'hui, comment ça se passe?
Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Lui, il est coach maintenant. Il est coach de tennis sur le circuit féminin, sur la WTA. Donc, on se voit même plus qu'avant.
Et coach qui?
Ben là, pour l'instant, il n'a personne. Donc,
Quelles sont les joueuses qu'il a coachées?
il a coaché Pavluchenkova. Il a coaché Petkovic. Et il a coaché une jeune Suissesse aussi. Donc, voilà, il a commencé à l'académie de Jan De Witt chez Breakpoint Base. Et donc voilà, maintenant il est à recherche de nouvelles joueuses ou joueurs.
Comment ça se passe le système de formation des joueuses et des joueurs belges? Quelle formation toi tu as connue?
Bah moi, dès 9 ans, je suis rentré à la fédération avec des cours régionaux. Et puis j'ai intégré le centre fédéral qui est à Mons, le centre francophone. Et ouais, parce que la Belgique est déjà un si petit pays, mais on a 2 fédérations différentes, donc une flamande et une wallonne. Et puis je suis rentré au centre et là jusque mes 18 ans, avant de commencer le circuit professionnel, j'étais en tennis études.
T'étais quel genre d'ado, déjà très sérieux, concentré sur son projet ou des conneries par-ci par-là, ou les deux?
Oh, il y a eu des conneries, mais c'était plutôt ouais, très réservé, timide et en retard physiquement. On dit, par rapport aux autres, j'étais toujours le plus petit, toujours le moins fort, mais d'ailleurs des qualités quand même physiques, mais par rapport aux autres, j'avais une tête de moins.
On va y revenir plus tard, mais c'est intéressant. Est-ce que tu penses que, du coup, tu as pallié peut-être ce retard physique par d'autres qualités et que tu as développé d'autres choses?
Oui, je pense que j'avais des qualités, ça c'était indéniable, mais il y a toujours à ce niveau-là, vers 14 ans, de 14 à 16 ans, quand il y a un retard, ben, la puissance là, fait tout pour le moment. Donc là, j'ai vraiment eu un passage difficile à la fédération à ce niveau-là, entre 14 et 16 ans, où ils ont hésité à me garder, etc. Donc, et puis c'est vraiment au déclic vers entre 16 et 18 ans, où là, j'ai commencé à grandir en gardant ces qualités physiques que j'avais, l'agilité, la rapidité, et puis le coup d'œil. Petit à petit, j'ai pu s'y passer sur d'autres joueurs qui étaient avec moi à la fédération.
Qui étaient les idoles de David Goffin quand il était jeune?
Moi, j'avais Pete Sampras. J'aimais bien évidemment Federer lorsqu'il est arrivé un petit peu après.
Nous, de France, on le voit, on a vu un réservoir de joueurs belges assez important, Xavier Malisse, Justine Hénin, Kim Clijsters, les frères Rochus, Steve Darcis même. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial dans le tennis belge. Déjà, c'est souvent très propre techniquement. Il y a assez de talent. Comment tu expliques ça?
Je pense que la Belgique a été un des premiers à inventer vraiment le mini-tennis avec les balles molles.
Ok.
Et ça a eu une facilité, je pense, pour les enfants à apprendre un peu la technique avec des plus petites raquettes, des balles un peu plus faciles, des balles molles, vraiment apprendre la technique plus facilement. Tout qu'il y en a qui commençaient direct avec des grandes raquettes et qui essayaient de trouver des solutions, c'était pas adapté pour les jeunes enfants. Et les balles un peu plus dures qui rebondissaient très haut, donc tout de suite les enfants essayaient de trouver des solutions qui parfois ne sont pas tip-top techniquement. Donc ça, on a vraiment une formation depuis très longtemps au niveau des tout jeunes et des tout petits pour pouvoir vraiment bien manier la raquette et avec des petits terrains vraiment adaptés pour apprendre la technique. Et après, ben, je pense que c'est ce qui fait notre réputation, c'est la technique dans les coups pour vraiment optimiser au niveau qu'on arrive à trouver une certaine vitesse de balle, qualité grâce à notre technique.
Et est-ce qu'il y a une, je sais pas, est-ce que les formateurs ont un regard et portent précisément un regard justement sur cet aspect technique?
Oui, bien sûr, c'est important, mais bon, il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi vraiment le physique qui joue, il y a la mentalité aussi.
Sure.
Avant de faire un bon joueur de tennis, bah, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, il n'y a pas que la technique, mais c'est sûr que nous, voilà, c'est notre réputation, c'est ça.
Mais justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que est-ce que culturellement, vous avez aussi quelque chose qui fait que, ben voilà, vous avez eu quand même cette, pour un, bien sûr, tu l'as dit, il y a deux pays en un, mais c'est un petit pays, et je trouve qu'il y a un réservoir de joueurs pour un petit pays qui est très important. Donc, est-ce que culturellement, je sais pas, les Belges, déjà, est-ce qu'ils adorent le tennis?
Le tennis, c'est le deuxième ou troisième sport en Belgique après le cyclisme et le foot.
Ok.
Donc, ouais, non, c'est quand même assez important, le tennis en Belgique. Et à chaque génération, on a eu nos joueurs, nos joueuses. Déjà, au niveau des joueuses, c'est dur de faire mieux avec deux numéros. Et au niveau des hommes, on a toujours eu de très beaux talents. C'est vrai que pour un aussi petit pays, avec aussi peu de joueurs, c'est une belle performance.
Ils t'ont influencé, ils t'ont permis d'y croire, cette génération précédente?
Bien sûr, parce que quand j'étais petit, que j'ai commencé à jouer, il y avait déjà des Belges qui étaient dans le top 100 ou dans le top 50. Et puis après, en grandissant, j'ai commencé un peu à m'entraîner avec Malice, Olivier Rocus, Steve Darcy. Petit à petit, je commençais à m'entraîner avec eux, à jouer, à faire les mêmes tournois avec eux, à voyager, même à jouer contre eux. Et finalement, maintenant, ils ont s'arrêté, il y a presque plus que moi sur le circuit. Mais c'est sûr que je leur dois pas mal de choses.
Est-ce que tu as toujours voulu être très fort? Très vite, tu l'as compris que tu voulais être très fort?
Non, au début, surtout en junior, où j'avais un peu plus de mal, c'est là qu'il y a vraiment eu un déclic. Là, je ne savais pas, parce que quand on termine un peu, quand on a son bac à 18 ans, on se dit, bon, est-ce que je continue vers le tennis ou est-ce que je m'oriente plus vers les études? Bon, là, je me suis dit, bon, d'office, je vais quand même essayer parce que, heureusement, dans ma dernière année junior, j'ai terminé dans les 10 en junior. Donc, je me suis dit, là, je peux peut-être commencer à y croire parce que sinon, ça aurait été compliqué l'année du bac si j'avais eu du mal au niveau des résultats et de me dire, bon, je me serais peut-être orienté vers les études. Mais finalement, cette année-là m'a fait du bien, m'a fait comprendre que peut-être je pouvais y arriver. Et donc, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance dans les futurs et sur le circuit professionnel. Et là, j'ai eu une progression assez constante. Donc, j'ai eu la chance de ne pas trop me poser de questions. Et ça a été assez, assez rapide dans les 2 ans qui ont suivi le bac.
J'ai regardé, ça n'a pas été fulgurant, mais ça a toujours été très régulier. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, en le faisant?
Oui, d'ailleurs... Comme je dis, heureusement que s'il y a une progression, chaque fois je sentais que j'évoluais bien et que je progressais bien, que ce soit au niveau du classement, au niveau de mon jeu, du tennis. Et comme ça, je ne me posais pas trop la question de me dire est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue. Parce que plus on avance, plus on se dit bah, ça devient de plus en plus dur de se relancer dans les études. Et puis finalement bah, ça s'est bien passé. J'ai vu que l'évolution continuait vraiment à monter jusqu'à... Ouais, commencer à gagner ma vie, commencer à faire de bons petits résultats. Et puis, voilà, même si c'est toujours été mon rêve de pouvoir vivre de ma passion, parfois il faut être raisonnable et parfois faire des choix difficiles, et, comme reprendre des études ou arrêter ou continuer.
Tu ne l'aurais pas fait à tout prix?
De tenter ma chance, tu veux dire?
Si, tenter ta chance, oui, mais je veux dire... Si tu n'avais pas justement connu cette progression assez régulière...
On serait posé la question. J'ai pas eu l'occasion de me la poser, donc ça, c'est bien.
On a commencé à en parler un peu plus tôt. Et moi, j'ai pu en témoigner quand j'ai dû préparer des matchs de mon frère quand il devait te rencontrer. Donc, j'ai regardé beaucoup d'images de tes matchs. Et l'une des choses qui ressortait pour moi, c'était ton intelligence de jeu et ton utilisation de la géométrie du court. Est-ce que ça se travaille ou est-ce que c'est inné?
Les deux, je pense. Les deux, parce que d'office, on essaye vraiment de mettre en avant pour gagner les matchs et d'imposer ses qualités de... Moi, d'office, moi, ça se ressent très fort dès que je suis bien et que je fais vraiment, que je suis bien dans mon match, que j'impose mon jeu, bah, tout de suite, on voit mes qualités qui sont les prises de balle tôt, j'ouvre le court, j'essaye d'aller vers l'avant, et tout de suite, ça se voit très fort lorsque je fais un bon match. Dès que je sors de ça, que j'impose pas mon jeu, tout de suite, je perds 100 places au classement. Donc, parce que tout de suite, je prends la balle moins tôt, je cours, je suis plus loin derrière ma ligne et tout de suite, ben, moi, je peux pas me permettre de faire ça. Donc, moi, je dois tout de suite être imposer mon schéma de jeu. En général, quand je l'impose, ben, et comme tu dis, que j'utilise bien le cours, que je fais courir mes adversaires, que je prends la balle tôt, je leur enlève du temps, ben, tout de suite, là, c'est le meilleur de moi qu'on peut voir.
Et quand tu fais ça, est-ce que c'est le jeune David de 14 ans qui était un petit peu en retard en puberté qui ressort?
Ouais, ça, je pense que ça vient de là, ça, c'est sûr. Parce que quand on est plus petit, que les balles rebondissent plus haut, qu'on n'a pas de force, ben, il faut d'office essayer de trouver des solutions. Et ça passe par essayer de prendre la balle tôt, essayer de trouver de la vitesse dans ses balles et essayer de faire ce qu'on peut pour faire mal à ses adversaires.
Il y a aussi quelque chose d'autre de déroutant chez toi, et je préparais Julien aussi à ça quand il te jouait, c'est que tu montres pas grand-chose, tu montres pas beaucoup d'émotions sur le terrain, une ouais. Espèce de poker face. Juste déjà, rassure-moi, est-ce que parfois t'as envie de tout casser?
Ouais, là, parfois ça sort aussi, mais ça vient plus de mon caractère, évidemment, qui est plus comme ça, où je garde un peu tout à l'intérieur. Parfois ça m'aide, mais parfois ça m'aide pas. Parfois il faut que ça sorte quand même, et parfois ça m'aide à rester calme et justement à gérer de bonnes situations.
Tu veux dire que ça fait partie de ton caractère, même hors du cours?
Ouais, je pense que ça vient de là.
C'est difficile parfois de se contenir, même si tu as ce caractère-là?
De se contenir, non, mais je sais que parfois ça me fait pas du bien, quoi. Parfois il faut extérioriser, parfois il faut un peu sortir de ça pour qu'il y ait parfois une réaction. Et c'est ça qui est le plus difficile pour moi.
Moi, j'avais un entraîneur, il me disait, voilà, utilise ton attitude pour garder le fil conducteur de ton jeu. Est-ce que c'est une manière aussi, parce que tu as un jeu qui est aussi basé sur la régularité. Je veux dire, quand tu joues très bien, tu fais très peu de fautes. Est-ce que cette stabilité nerveuse t'aide à maintenir ce niveau de jeu moyen et cette régularité?
Oui. Là aussi, parfois, bon, j'essaye de, même parfois quand ça va mal ou quand ça va un peu moins bien, on est un peu plus dur physiquement ou même tennistiquement, c'est dur. Ce jour-là, ben, voilà, en restant calme, parfois, ça m'empêche de descendre un peu plus bas que si vraiment je lâchais, quoi. Donc, en restant calme, en paniquant pas trop, ben, parfois, ça me fait gagner des matchs, même en jouant un peu moins bien.
On va passer un peu à ta carrière. Donc, tu es aujourd'hui 10e mondial.
Ouais.
Bon, ça s'est gelé déjà pour les quelques semaines à venir. Tiens, d'ailleurs, est-ce que toi, le gel du classement, il t'est plutôt favorable ou défavorable?
Oui et non. Ce qu'il y a, c'est que j'avais une période maintenant où j'avais quasiment rien à défendre. Donc, en étant 10e, bah, ça me laissait vraiment une bonne fenêtre jusque Roland-Garros, avec toute la terre battue, que j'aime encore bien, Indian Wells, Miami, de gros tournois pour essayer de monter encore au classement. Maintenant, comme je n'ai pas, comme j'avais rien à défendre, moi, je vais rester probablement 10, peut-être même gagner une ou deux places d'ici Roland-Garros ou même plus. Parce que vraiment, mes gros points commencent vraiment à Roland-Garros plus le gazon, où j'avais vraiment bien joué l'année dernière. Donc oui et non, en même temps il y avait une opportunité de monter et en même temps ben, là je vais pas descendre, mais bon, gagner des places sans jouer, c'est pas vraiment non plus, c'est pas la même chose, ça a pas le même goût.
Donc ça t'est un petit peu défavorable parce que comme tu as des gros points, tu vas peut-être monter dans les quelques mois à venir, mais comme tu as des gros points qui vont arriver à défendre, ben, les points que tu ne gagnes pas, enfin que tu ne peux pas gagner à cette période-là, tu vas pas pouvoir tu vas les gagner plus difficilement dans les mois d'après.
Mais quand ça risque de recommencer, ben au moins j'aurai mon classement, je serai au moins 10e mondial quand ça va recommencer. Il y en a qui vont peut-être après quelques semaines tout de suite perdre pas mal de places vu qu'ils n'ont pas joué depuis longtemps. Donc, bon, on verra. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon pour tout le monde.
Donc, je le disais, tu es aujourd'hui 10e, tu as été 7e mondial au mieux, un classement que tu as atteint en 2017. C'est une année qui a été exceptionnelle pour toi, hein, dans laquelle tu bats Djokovic à Monte-Carlo alors qu'il est 2e mondial. Puis tu finis, j'ai envie de dire, en apothéose au Masters en battant Nadal numéro 1 mondial en phase de poule, c'était en 3-7. Et puis Federer numéro 2 en demi-finale. Et tu perds en finale contre Dimitrov. Quel souvenir tu gardes de cette saison? Parce que maintenant, on est en 2020, c'était il y a déjà 3 ans. Donc, quel souvenir tu gardes de cette saison?
Ouais, il y a eu beaucoup de choses. J'avais très bien commencé par un quart de finale à Melbourne. Et ça m'a vraiment fait du bien. En général, j'ai du mal à commencer un petit peu ma saison. Et là, d'avoir commencé par un quart de finale à Melbourne, d'avoir enchaîné sur 2 finales, Rotterdam et Sofia tout de suite après, là, ça m'avait vraiment bien lancé pour la suite de la saison avec plein de confiance. Et malgré ça aussi, dans cette saison-là, où c'est la saison où j'ai pris la bâche à Roland-Garros dans le fond, je me suis fait une entorse où j'ai été pendant quelques mois out. Et j'ai réussi à revenir assez vite avec les 2 tournois en Asie, avec 2 victoires en Asie d'affilée. Et la finale au Masters en fin d'année. Donc, c'était une année riche en résultats et en blessures aussi. Et puis, il y a eu la Coupe Davis aussi. Donc, il y a eu plein de choses.
On va y revenir après. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tu fais la plus grande saison de ta carrière pour l'instant. Mm-hmm. Et tu connais quand même cette blessure à Roland-Garros qui te prive de Wimbledon, je crois.
Ouais.
Donc, tu as 2 grands chelems quasiment qui ne comptent pas.
Ouais, tout à fait. C'était au 3e tour à Roland-Garros contre Zeballos. Et je crois que j'avais balle de 7 à ce moment-là. Et puis, toute la saison de gazon. Je recommence un petit peu sur terre avant les tournois aux États-Unis. Mmh. Et bon, c'était pas encore au début quand on recommence, il faut toujours un peu de temps pour revenir, quoi, parce qu'on a toujours un peu d'appréhension. Et puis finalement, le déclic s'est fait après les États-Unis.
Je veux revenir sur ces 3 grandes victoires, parce que je pense que c'est rare de battre les trois GOAT, comme on les appelle, dans une même saison, surtout dans une saison où ils sont pas loin d'être au sommet de leur art. Avant une saison comme 2017, et avant d'avoir ces grandes victoires et ces bons résultats, est-ce que ça se sent quand on se prépare en période hivernale où on se dit ah, là je sens quelque chose, je me sens mieux que d'habitude, je sens mieux la balle que d'habitude, ou c'est juste comme tu l'as toujours fait, assez régulier, et c'est juste une évolution en plus?
Les deux, parce que là je me sentais vraiment bien, mais parfois ça ne paye pas toujours. Parfois la préparation, on se dit ouais, je me sens vraiment bien, et puis ça paye toujours à un moment ou un autre dans la saison, je pense. Quoi qu'il arrive, donc parfois quand tout de suite après la saison, la pré-saison, on se dit, on performe bien, on se dit, ben voilà, c'est grâce à la pré-saison que je viens de faire. Mais parfois on performe un peu plus tard et on oublie que ça peut être aussi grâce à cette pré-saison. Parce qu'on se dit, ben voilà, on a fait quelques tournois, mais je pense que quand on se sent bien déjà dans la pré-saison, on sent qu'on progresse, qu'on a fait quelque chose en plus, qu'on est plus fort physiquement. Et qu'on évolue encore tennistiquement, je pense que ça paye toujours tôt ou tard dans la saison.
Est-ce qu'on sent quelque chose de différent dans la raquette?
Parfois, oui. Parfois, oui, la pré-saison, quand on est vraiment relâché, qu'on s'entraîne depuis quelques semaines et que parfois, ouais. Parfois, on sent que là, il y a des déclics. Parfois, ça peut être technique. Parfois, ça peut être dans la balle, dans la raquette, on le sent.
Ces 3 mecs, j'ai regardé, tu les as jamais battus en grand chelem. Tu me dis si je me trompe. Les 3 grands.
Non.
Selon toi, qu'est-ce qui te manque pour les battre en grand chelem?
Déjà, c'est plus dur. Faut leur prendre un 7 en plus. Et puis, je crois que eux aussi sont, c'est leur objectif principal de la saison, les grands chelems. Moi, comme moi aussi, mais, donc eux sont encore plus durs à battre.
Ils sont meilleurs en grand chelem.
Je pense qu'ils sont meilleurs en grand chelem parce qu'ils ont encore plus d'expérience que moi. Ils ont vécu bien plus de matchs à tension, à haute intensité. Ils en ont, quand on voit Roger, le nombre de matchs qu'il a en grand chelem, le nombre de demi-finales, le nombre de finales, c'est des tensions énormes. Je ne peux même pas imaginer ce que c'est. Et eux, ils les ont gérés de main de maître. Donc voilà, eux ils sont préparés pour ça et Et donc, ils ne paniquent pas et ils arrivent à, ils essayent de développer leur meilleur niveau dans ces moments-là.
Comment tu te prépares quand tu vas jouer contre chacun d'entre eux, par exemple? Qu'est-ce que tu dis quand tu rentres sur le terrain contre Federer?
Bah déjà, contre Federer, je suis super tendu. Donc, plus que contre un autre, parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de... En fait, on a envie de, j'ai envie de faire mon match et de ne pas être perturbé par qui il est, en fait. Déjà, ça, c'est une première étape. Et après, ben, on se dit que le début de match, c'est le plus important contre un joueur comme Federer. Si ça peut se relâcher ou bien commencer le match, on sait que lui, il commence souvent très fort. Donc, parfois, ça peut déstabiliser beaucoup. Et donc, si j'arrive déjà à bien commencer mon match, parfois, ça peut me détendre et annoncer un bon match face à lui.
Quand on joue contre Nadal, comment tu te prépares ?
À Nadal, c'est différent parce qu'on a un peu plus de temps, mais enfin, ça dépend de la surface aussi. C'est sûr que je l'ai joué à Roland et en indoor sur surface rapide, ce ne sont pas les mêmes matchs. Même si ça restera Rafa, je crois que quand il joue dans son jardin sur le court Philippe Chatrier à Roland, avec 12 mètres d'espace derrière la ligne de fond, bah, c'est très compliqué de lui faire un coup gagnant et on le sent tout de suite parce qu'on sent qu'on a les, balles, on sent qu'on n'est pas encore trop dépassé, mais voilà, on sent qu'on n'y arrive pas et puis lui arrive comme un rouleau compresseur derrière pour faire courir et ça, c'est très compliqué.
Ça, c'est incroyable quand on entend ça. Bah, tu vois, toi, 7e mondial, bon, ok, lui, numéro un, plus grand joueur de l'histoire sur terre battue et dans la course pour le devenir aussi tout court. Je suis toujours impressionné par vous qui me dites, bah ouais, mais sur terre battue à Roland-Garros sur le court Philippe Chatrier, c'est quoi? C'est un autre monde? C'est un autre tennis?
C'est juste que, ouais, physiquement, il est puissant, il est trop puissant, et mentalement, il arrive à maintenir ça pendant des heures. Et il est tellement dur à dépasser, c'est vraiment compliqué. C'est la première fois que je jouais à Roland Garros l'année dernière et bon, j'ai réussi à lui prendre un set, mais après quand j'étais déçu d'avoir perdu évidemment, mais ça restait Rafa et tout le monde me disait incroyable, t'as pris un set, mais bon, il en fallait encore, j'étais encore à des années-lumière de pouvoir le battre. Et donc, ça prouve comment Nadal a une supériorité par rapport aux autres sur terre battue et aux yeux des gens aussi. Je crois qu'il est surpuissant. Il arrive à être indépassable et en même temps, lui, dès qu'il a l'opportunité, à dépasser les autres. Donc, il n'y a rien de mieux sur terre battue.
Toi, tactiquement, qui aime trouver des solutions, qui a fait ça et t'en as fait ta marque de fabrique pour toute ta carrière, tu te dis quoi? Tu dis, je vais essayer... Si je suis dans la diagonale coup droit sur mon revers, je vais essayer de venir la prendre plus tôt, j'essaie de rediriger le jeu, je garde la diagonale. Tu te dis quoi tactiquement? C'est quoi tes options tactiques contre lui?
Ben moi, je sais déjà que si je recule un petit peu, je suis mort, parce que tout de suite, il va ouvrir le court, il va prendre son coup droit, et là, c'est impossible. Moi, et plus les autres joueurs, on ne sait pas revenir dans le point. Et non, il faut absolument rester sur sa ligne de fond, dicter, essayer de le faire courir. Je pense que maintenant c'est une erreur vraiment d'aller se focaliser sur son revers qui maintenant a vraiment progressé et maintenant il décale plus autant qu'avant et son revers il arrive vraiment à faire mal et donc se focaliser sur son revers c'est une erreur je pense, donc il faut permanence essayer de le faire bouger, essayer de prendre la balle tôt vu que moi des deux côtés que ce soit coup droit ou revers j'arrive à le faire donc je dois essayer de continuer à la faire bouger des deux côtés.
Et le troisième, Novak Djokovic, c'est encore différent?
Bah là, j'ai toujours eu plus de mal parce que quelque part, c'est il fait tout comme moi, mais mieux que moi. Donc c'est dur de trouver une faille parce que même quand je joue très bien, lui, il arrive à jouer encore un peu mieux. Et donc aussi, parfois, j'ai réussi à le battre une fois, c'était sur terre battue et à Monte Carlo. Et donc, on a un peu plus de temps parce que ça va très très vite avec Novak, c'est qu'il enlève du temps à ses adversaires, il joue toujours très très long, très rapide, il change tout de suite les directions, il va très très fort long ligne. Donc c'est vraiment dur de suivre. il asphyxie ses adversaires. Donc, et quand, quand je joue, parfois j'ai l'impression de bien jouer, mais au final, c'est 3 et 2. Donc, c'est ça qui est un petit peu déroutant quand, quand moi je joue Novak. En fait.
Je suppose que l'un de tes objectifs, et tu l'as dit, tu as déjà fait donc quart de finale Open d'Australie, quart de finale à Roland-Garros, quart de finale à Wimbledon et huitième à l'US Open. Je suppose que l'un des objectifs, c'est d'aller plus loin, d'aller au moins en demi et puis même aussi plus haut. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que tu dis, OK, faut que j'attende qu'il soit plus là ou j'y crois fort et cet objectif d'aller chercher un grand chelem, même quand ils sont là Est-ce qu'on réfléchit comme ça?
Non, je pense que non, je réfléchis pas trop comme ça. À chaque fois, je me prépare pour le. Je sais que c'est les quatre plus grands rendez-vous de l'année. Je les prépare à fond. Je joue jamais la semaine avant. Je me prépare toujours sur place pour vraiment être bien dans les meilleures conditions. Et puis, match après match, je vois ce qui se passe. Et j'essaie de faire le mieux possible, essayer de m'économiser le plus possible quand j'en ai l'occasion. Bien récupérer parce que c'est souvent des matchs durs. En Australie et à New York, ça peut être des conditions extrêmes de jeu. Non, je pense pas trop à ça. Et puis, si jamais je dois les rencontrer, même chose, j'essaie de faire le maximum et espérer que c'est vrai que sur le papier, on n'est jamais favori. Mais on essaye que, voilà, ce jour-là, pourquoi pas, si les planètes s'alignent, et que moi je fais un grand match, eux sont un petit peu moins bien, que j'arrive à reprendre les opportunités, bah, voilà, on sait jamais.
Ok, ça peut arriver sur un, peut-être deux matchs, mais souvent il y en a un ou deux ou trois à battre.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, donc on espère parfois qu'il y en ait deux qui s'entretuent déjà de l'autre côté du tableau. Ça ferait déjà un ou moins, et puis voilà, ça dépend. Ça dépend les surfaces, ça dépend aussi, voilà. Je préfère, c'est sûr que Nadal est plus compliqué à jouer, je pense, à Roland-Garros que quelqu'un d'autre.
Je reviens à ton année de fou en 2017, où en plus de connaître tout ce succès d'un point de vue individuel, vous avez fini avec la finale de la Coupe Davis avec la Belgique, vous perdez contre la France. Et je me suis toujours posé une question, donc je profite de t'avoir pour te la poser. Tu jouais l'un des meilleurs tennis de ta carrière. Pourquoi tu n'as pas joué le double en finale?
Oui, on l'a souvent posé. On l'a souvent posé et c'est vrai que j'ai hésité. On a joué dans l'équipe avec Steve en deuxième simple, qui lui était blessé au bras et on a tout fait pour qu'il soit opérationnel pour cette finale et il l'a plus ou moins été, mais c'était difficile. Et donc moi, mon souhait était de jouer avec lui en double parce que j'ai toujours mieux joué avec lui et je me sentais mieux avec lui en termes de caractère et de jeu aussi. Je pense qu'on voulait jouer ensemble. Maintenant, on avait Ruben Bemelmans et Yoris Delors qui, eux, préparaient ça depuis des semaines et qui étaient devenus depuis peu avant cette finale notre paire de double. Ils avaient fait chaque fois la... C'est eux qui formaient la paire de double dans les rencontres de Coupe Davis de toute cette année-là et l'année d'avant. Et ils ont eu de bons résultats et ils s'entendent bien aussi. Donc, moi, je me suis dit, bon, si Steve, le plan était peut-être de l'emmener au cinquième match, que moi, je me prépare pour mes deux simples, qui n'étaient pas faciles du tout face à Lucas le premier jour et à Joe le troisième. Donc, j'avais besoin aussi de garder un peu de fraîcheur. Donc voilà, c'était pas une décision facile, mais on est parti sur cette option-là.
Est-ce que vous avez été surpris de voir Gasquet et Herbert alignés?
Oui, très, mais sachant que Nico... Ouais, c'était pas facile parce qu'en France, il y a toujours eu énormément de joueurs, que ce soit pour le simple, des joueurs qui peuvent jouer les deux, des joueurs qui sont que pour le double. Donc tout ça fait que il y a des sacrifices à faire. Et surtout que, bon, en ayant vu Pierre-Hugues la semaine avant qui s'était fait un lumbago Masters, il m'avait dit que ça allait être compliqué, qu'il avait vraiment fort mal au dos. Finalement, il a réussi à s'en remettre. C'est lui qui est aligné. Et en plus, pas avec Nico Mahu, qui est son partenaire de l'année. Donc c'était... Non, c'était compliqué. Maintenant, je suis pas, en interne dans l'équipe de France, mais c'est sûr que ça nous a un peu surpris. Mais bon, c'était le bon choix vu que vous avez gagné.
Et dis-moi, j'ai regardé tes stats en Coupe Davis. 24 simples joués, seulement 2 défaites. Je parle de qui compte. Hein. Mm-hmm. Tu devais être triste quand la compétition elle a changé, non?
Ouais, c'était plus pareil là, pour avoir joué à Madrid. Là, c'est sûr que j'avais pas du tout la pression de jouer la Coupe Davis. Non, ça a toujours été une compétition que j'adore. C'est sûr que jouer devant, même jouer à l'extérieur, c'est quelque chose de spécial. C'est sûr que c'est mieux de jouer à domicile avec le public derrière soi, mais à l'extérieur, on forme aussi l'équipe est assez soudée. Et on vit quelque chose de spécial aussi lorsqu'on joue dans un autre pays. Et j'ai toujours bien aimé, ça m'a toujours bien réussi. Voilà, comme tu as dit, les stats le prouvent. Toujours fait de bons matchs. Je sais pas, peut-être parce que je joue pour l'équipe, je joue pour le pays. Et on se dit quelque part, on n'a pas le droit de baisser les bras. On doit tout faire pour les potes, pour le pays. Et ça m'a bien réussi à chaque fois.
Je fais une petite parenthèse. On voit que le tennis, alors bien sûr avec les événements en ce moment ça change, mais on voit que le tennis est un peu en train de, enfin il continue d'évoluer avec des nouvelles compétitions qui apparaissent ou qui se modifient, comme la nouvelle version de la Coupe Davis. Quel regard toi tu portes sur tout ça? Est-ce que ce n'est que parce que il y a deux organisations différentes qui régissent le tennis ou est-ce qu'il y a d'autres solutions?
Ouais, chaque solution est prise au cas par cas. Je pense que la Coupe Davis, déjà, il fallait que ça change. Quand on voit que le top 20 ne joue plus la Coupe Davis, ouais, il fallait essayer quelque chose. Je dis pas qu'ils ont fait, c'est une bonne solution ce qu'ils ont fait. Parce que je pense que la Coupe Davis, ça n'a pas fonctionné cette année en termes de public. Et les joueurs, je pense, ont eu un retour plutôt moins positif que l'ATP Cup, par exemple, en janvier, où là au niveau des fans et du public ça a eu vraiment un succès. Donc voilà, je pense qu'il faut faire des changements. Moi je suis pour le changement, mais il faut que ce soit des changements plutôt cohérents et il faut que les joueurs suivent aussi derrière. Si les joueurs sont d'accord et sont prêts à faire le changement, je pense que c'est le plus important, parce que le plus important c'est les joueurs, c'est eux qui font la réussite des tournois Mais ouais, il va y avoir encore des changements, je pense, parce que le tennis évolue, l'attente des spectateurs évolue aussi, mais il faut faire ça intelligemment.
Je reviens aux joueurs français. Tu es ami avec certains d'entre eux, tu es proche de Lucas, tu es proche de Pierre Hugues. Comment on gère, moi j'aime bien savoir, parce que je sais que c'était pas facile pour moi, comment on gère la vie d'homme, la vie d'ami et la vie de joueur de tennis sur le circuit ATP?
Bon, ça se fait naturellement, déjà on s'est joué plein de fois en plus, donc ça, moi j'ai pas de problème avec ça, même quand on joue un compatriote ou un pote sur le terrain, c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je sais que d'office, ça se passera bien sur le court, parce qu'on se respecte. Et je sais que avant et après, ce sera pareil. Donc moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis quand on se retrouve en dehors, la même amitié qui reste, et ça c'est le plus important.
Et je me pose la question, par exemple, cette coupure pour un de tes amis qui est Lucas. Ça va pas être facile parce qu'il comptait sur cette période pour revenir de blessure. Est-ce que tu as pu échanger avec lui ou qu'est-ce que tu te dis quand tu vois que, par exemple, pour lui, ça continue, quoi, l'arrêt du tennis?
Ouais, c'est clair, c'est très dur pour lui. Il a eu une longue période. Il était proche de reprendre fin d'année, puis finalement, il a de nouveau eu mal, et puis alors ça s'est prolongé, donc il a dû se poser pas mal de questions. Et quand enfin on se dit je suis prêt, je vais pouvoir enfin rejouer, j'imagine que l'envie était très forte chez lui, et Et, enfin, et d'être là sur le court, il a même fait un match en challenger pour préparer Indian Wells. Donc, il a même regoûté un petit peu au match. Et tout de suite, ben, on le met à l'arrêt. On nous met tous à l'arrêt. Et donc, il doit avoir des fourmis dans les jambes encore maintenant.
Il y a une question, on s'approche un peu de la fin. Il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est pour réussir ce que vous accomplissez, vous, les championnes et les champions de tennis. J'ai toujours pu observer, justement, chez vous, qu'il y avait une rage, un supplément d'âme. Est-ce que tu sais où tu la puises, toi, cette rage?
Non, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi, je pense.
Est-ce que ça vient d'une éducation de...
Non, je pense que vraiment, c'est l'amour du sport. Le tennis en lui-même, quand on est sur le court, ben, on adore ça, on adore essayer de trouver des solutions. Depuis tout petit, c'est un jeu d'échecs avec chaque adversaire et quelque part, on lâche pas parce qu'on veut, on sait qu'on a des solutions, on essaye d'en trouver, on essaye des pistes. Parfois, elles fonctionnent pas et on rejoue l'adversaire plus tard dans l'année et on réessaye. Et c'est ça, on veut jamais lâcher, on veut toujours essayer de progresser, on veut toujours essayer d'aller plus haut et c'est ça que dans les matchs, parfois, bon, je dis pas que parfois on a, comme chaque être humain, parfois on a des coups un peu plus durs et des moments plus durs et c'est plus difficile sur le court, mais on garde cette même passion, cette même rage, cette même envie de jouer et l'amour du tennis fait que chaque fois on revient et qu'on réessaye et qu'on se bat pour essayer d'aller plus haut.
Quand est-ce que tu crois que tu remettras le pied sur un terrain de tennis pour un match? Si t'avais un pronostic à faire.
Bonne question. J'espère Wimbledon, ce serait bien. Mais voilà, Wimbledon était prévu fin juin, début juillet, donc ce serait cool.
Et dernière chose, si t'avais, un message à passer aux fans de tennis qui en ont marre de regarder les replays et les highlights sur YouTube, qu'est-ce que tu leur dirais?
Ben, je leur dirais d'être patient, comme nous on l'est, d'essayer de maintenir la forme, et puis on reviendra vite avec encore de magnifiques matchs, tous l'un contre l'autre, avec de rebondissements, et que le tennis sera de retour bel et bien dans quelques semaines.
Merci beaucoup David Goffin, tu prends soin de toi, on pense aux gens qui sont confinés chez eux, qui nous ont écoutés, et puis merci à vous, chers auditeurs, et puis merci beaucoup David.
Merci à toi.
À très bientôt.
Ce n'était pas facile par Skype, mais je le remercie car il a tout de suite accepté. Et puis c'était bon, le temps d'une discussion, de se changer les idées et d'échanger sur notre passion. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner sur Apple Podcast. Le succès de ce programme en dépend. Occupez-vous de vos proches, restez chez vous. À très vite pour un prochain épisode d'échange. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.